Voilà, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Et donc, nous sommes depuis plusieurs semaines dans l'Évangile de Jean. Et il y a un fil conducteur qui nous guide, c'est l'étude dans cet Évangile des sept signes que Jésus que Jean a rapporté, ces sept signes qui sont décrits, qui sont dépeints et qui sont là pour attester que Jésus est vraiment le Christ. Et le but de l'évangile de Jean, c'est que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ promis par les prophètes du passé, et que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. On a déjà vu trois signes, on va voir le quatrième aujourd'hui. Et donc on va lire Jean 6, versets 1 à 13. L'épisode de la multiplication des pains. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Voilà, on voit que les signes que Jésus a commencé à montrer, à manifester, commencent à avoir un certain impact. Il est dit que, alors que Jésus se trouve près du lac de Tibériade, une grande foule le suit, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. On voit que les miracles attirent du monde. Mais pour autant, ça ne signifie pas que les gens qui viennent vers Jésus ont compris déjà qui il était. Dans le verset 26 du même chapitre, c'est le lendemain de la multiplication des pains, Jésus dit à la foule qui s'est mise à le rechercher après avoir bien mangé la veille, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » En fait, les gens le suivaient pour les avantages qu'ils recevaient. C'était sympa de suivre Jésus. On avait du pain gratuitement. Hein. Pas besoin de travailler, d'aller au supermarché. On voit donc que ce n'est pas parce que les gens suivent Jésus pour des miracles qu'ils le suivent pour les bonnes raisons. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi noter. Jésus a dit et a plusieurs fois fait remarquer dans l'Évangile que la foi qui est pure, c'est la foi qui s'attache à lui sans avoir vu forcément des choses extraordinaires. À la fin de l'évangile de Jean, Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Il veut démontrer par là qu'une foi qui est pure, En tout cas, une foi qui est profonde, elle ne s'appuie pas simplement sur le miracle. Elle s'attache à la personne de Jésus. On doit toujours se poser la question, pourquoi est-ce que l'on suit Jésus ? Est-ce que nous avons compris qui il est, la grandeur de la personne de Jésus, ce que tu nous as rappelé tout à l'heure, Ryan. Jésus est beaucoup plus grand que les bénédictions que nous pouvons recevoir de lui. Il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le don parfait de Dieu pour notre salut. Et si nous sommes bénis en le suivant, l'important c'est de nous attacher à lui pour ce qu'il est, pour la personne qu'il est. Si nous suivons Jésus simplement pour des bénédictions, alors il se peut qu'un jour nous ne le suivions plus, nous nous détournions de lui. Le jour où Jésus ne répond pas à nos désirs, ou le jour où ça nous coûte de le suivre, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde, comme c'est le cas pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Beaucoup payent un prix fort pour suivre Jésus, sans rien recevoir en retour. Est-ce que nous aimons Jésus pour qui il est ? Parmi la foule qui suit Jésus, il y a des cœurs sincères, mais il y a aussi des profiteurs, des hommes qui sont là simplement parce qu'ils ne voient que, comme je l'ai dit, leur intérêt, leur avantage. Et malheureusement, je l'ai aussi vécu, il y a aussi parfois des gens qui viennent dans les églises par profit, pour recevoir des choses, être bénis. Mais quand il s'agit de payer un prix, de contribuer à la vie d'église, de faire quelque chose pour Jésus, ils ne sont plus là. Le roi des profiteurs, c'était Judas, lui qui avait la bourse. Alors Florian, je ne te vise pas, hein, c'est toi qui es le comptable. Mais il est dit que Judas profitait de l'argent que les gens mettaient, que les personnes donnaient pour l'œuvre, pour les besoins de l'équipe qui était avec Jésus. Il détournait cet argent pour lui. On peut suivre Jésus pour de mauvaises raisons. Jésus a une foule immense devant lui et la voyant, il est pris de compassion. Il se préoccupe de leurs besoins. Et il va donc utiliser l'occasion de cette foule qui est là pour manifester une fois de plus qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, en faisant un miracle extraordinaire. Alors, on va un peu s'intéresser d'abord à la façon dont ce miracle se déroule. La première personne que Jésus interpelle, c'est Philippe. Il interroge Philippe. Vous l'avez vu, Jésus leva les yeux, vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus est allé d'abord vers Philippe ? Pourquoi pas vers un autre ? Pourquoi pas vers Pierre, André, Jean ? Alors c'est intéressant de faire connaissance un peu avec Philippe. Philippe, il apparaît très tôt dans l'évangile de Jean. C'est pas n'importe qui. C'est le premier disciple que Jésus a appelé en lui disant directement « Suis-moi ». C'est le premier à qui Jésus dira « Suis-moi ». On voit ça dans Jean 1, 43. Le lendemain, du jour où il a rencontré Pierre, il lui a dit « Suis-moi » aussi à Pierre. Mais Pierre a d'abord été contacté par André. Et c'est André qui a conduit Pierre vers Jésus. Mais Jésus rencontre Philippe sur son chemin et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de la ville de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Il y avait vraiment le désir, la volonté de Jésus que Philippe fasse partie de son équipe, de sa garde rapprochée, on peut dire, des 12 qui allaient le suivre jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et Philippe est quelqu'un d'intéressant, parce qu'on se rend compte que dans sa recherche, ce qui compte pour lui, c'est de savoir vraiment qui est Jésus. Lorsque Jésus a appelé Philippe, Philippe a passé quelques heures avec Jésus seulement, et après avoir passé ses heures, il revient vers Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nous avons trouvé celui qui était annoncé depuis toujours dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est presque le premier qui fait cette confession. Philippe n'a vu aucun miracle, comme je l'ai dit. Il a simplement découvert qui était Jésus et tout de suite, il a cru, il a compris qui était Jésus. Imaginez que vous soyez l'ami de Philippe et que, comme Nathanaël, vous rencontriez cet homme qui vient de passer quelques heures avec Jésus et qui vous dit « Hé, Nathanaël, c'est pas la peine de chercher d'attendre le Messie, le Christ, celui que Jérémie, Ésaïe, David a annoncé. J'ai passé 3 heures cet après-midi avec lui. » C'est bizarre, hein ? Mais c'est ce qu'il a dit. « Je suis convaincu que ce Jésus que je viens de rencontrer, avec qui j'ai passé quelques heures, c'est le Messie. » Plus tard, on rencontre de nouveau Philippe dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Et Philippe, il était comme les autres disciples. Il fluctuait dans sa foi. Par moments, il était convaincu, d'autres moments, il se posait des questions. Et Philippe demande à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » C'est dans Jean 14, versets 8 à 10. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?» La caractéristique de Philippe, comme je l'ai dit, c'est vraiment qu'il veut être sûr que Jésus est le Christ. Et toutes les questions de Philippe, toutes ses interventions tournent autour de cela. Et on comprend que Jésus va mettre à l'épreuve d'abord Philippe. Est-ce que tu crois vraiment que je suis le Christ, le Messie, le Sauveur ? Il le place face à un défi impossible à relever. C'est intéressant la façon dont Jésus s'y prend. Il fait comme s'il était embarrassé. Il s'approche de Philippe et lui dit « Qu'est-ce qu'on va faire ? Regarde cette foule qui a faim. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jésus fait semblant d'être embarrassé. Hein ? Il lui pose une question comme s'il ne savait pas comment faire face à cette situation nouvelle qui est là devant lui. Il teste Philippe. Il sait très bien ce qu'il va faire, mais il dit ça pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que tu crois que je suis le Messie ? Si tu le crois, Philippe aurait pu répondre, « Mais Seigneur, je t'ai déjà vu faire des choses incroyables. Tu as guéri à distance un homme. Tu as changé l'eau en vin. Les signes qui ont précédé ont démontré que tu étais tout puissant. Ce n'est pas un problème pour toi, certainement, cette situation. » Mais Philippe, jusqu'à présent, en tout cas dans cette situation, répond tout simplement comme nous aurions répondu, je pense, de façon tout à fait humaine. Il commence à compter. Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Il réagit au défi que Jésus lui lance par simplement un calcul. Il a regardé la foule, il sait à peu près combien vaut une miche de pain, et il se dit, même 200 pièces, ça ne suffira pas. Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, souvent, comme Philippe ? Bien que nous connaissions Jésus, que nous savons qui il est, souvent, notre première réaction face à un défi, une difficulté, c'est de regarder à nos moyens et nos possibilités. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Quelles sont mes forces ? Je l'ai vécu particulièrement cette semaine ou la semaine dernière, parce qu'on a reçu une lettre du propriétaire de ce lieu qui nous a dit qu'il va augmenter le loyer. Alors j'ai regardé mes sous. J'ai dit, Seigneur, avec ce qui rentre, on ne pourra pas. On est comme ça. On réfléchit d'abord avec nos propres moyens. On compte nos possibilités. On est pourtant chrétien, on est sûr que Jésus est là, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il a les moyens de pourvoir à tous nos besoins. Mais face aux défis, nous réagissons souvent d'abord en regardant à nous-mêmes, à ce que nous pouvons faire. La première leçon qu'on peut retirer ici de cette histoire, c'est que Jésus ne nous fait jamais entrer dans un défi, dans une situation qui nous dépasse, sans avoir prévu une solution à l'avance. Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe ne le savait pas, mais Jésus savait déjà d'avance comment résoudre le problème qui était devant lui. Et je crois que la foi chrétienne, elle se passe dans les petites choses tout à fait matérielles et concrètes de la vie. Oui, nous devons croire Jésus pour être sauvés, régler la question de notre éternité, mais dans la vie courante aussi, la foi, elle doit être mise en action. On doit apprendre à compter sur Jésus, à lui remettre les choses, plutôt qu'essayer de nous en sortir, de nous libérer de nos situations difficiles par nous-mêmes. Le miracle de la multiplication des pains, certes, il vise la foule, mais il est aussi une école pour les disciples. Et on voit bien ici que, d'ailleurs, dans tous les miracles que Jésus fait, c'est d'abord les disciples qu'il veut instruire. C'est en eux qu'il veut forger la conviction qu'il est bien le Christ, le Fils de Dieu. Et il les fait passer par différentes étapes pour qu'ils soient convaincus à travers tous les miracles que, bien, il est le Christ, le Sauveur. Après Philippe, il y a un deuxième disciple, et c'est pour ça que je dis ça, que Jésus veut former les disciples, parce que Jésus s'est adressé à Pierre, mais il ne l'a pas fait en secret, il l'a fait devant les autres. Et André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» André est un peu différent de Philippe. C'est quelqu'un de pragmatique, de pratique, de responsable. Et il se dit, on va quand même regarder ce qu'on a. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Il est bien conscient que les moyens qui sont devant lui sont très limités et que ça ne suffira pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas repousser la solution proposée par André. Vous avez remarqué ? Faites asseoir ces gens. Il ne dit pas, tu dis n'importe quoi, André. Au contraire, il va utiliser les quelques provisions qui sont apportées par le jeune garçon pour, à partir d'elles, élaborer une solution pour le problème. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous. Parfois, on pense que face aux difficultés et aux impossibilités auxquelles on est confronté, il n'y a que Jésus qui doit se débrouiller. Nous, on n'a rien à faire. Certes, Jésus peut faire des choses extraordinaires, mais il le fait au travers de ce qu'on met à sa disposition. On n'a peut-être pas grand-chose, mais on peut lui apporter ce qu'on a. Et à travers cela, Jésus est capable de multiplier, de faire des choses qui répondent aux besoins de la situation. C'est aussi une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que moi je peux donner pour que la communauté puisse vivre, marcher, pour que Jésus puisse l'utiliser pour répondre aux besoins de la communauté ? Une église, ça ne tourne pas que par l'amour et l'eau fraîche. Ça tourne avec la participation, la contribution de chacun. Et quand chacun apporte le peu qu'il peut donner, eh bien Jésus peut faire des choses formidables, extraordinaires. Et donc, Jésus va prendre les quelques pains et 2 poissons qui sont simplement là. C'est pas beaucoup, mais il y a au moins un départ. Il y a quelqu'un qui est venu apporter quelque chose. Et à partir de ce petit rien, Jésus va pouvoir agir et multiplier et répondre aux besoins de la foule. Alors, dans cette histoire, il y a deux héros. Les disciples, c'est plutôt des assistants. Ce n'est pas eux les héros. Hein. Eux, ils constatent simplement les besoins. Ils font asseoir la foule, ils distribuent le pain. Mais bon, c'est tout. Ils sont des serviteurs pratiques qui accompagnent ce que Jésus fait. Mais il y a deux héros. Le premier héros, eh bien, c'est ce petit garçon. Ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il avait, il est dit simplement, au verset 9, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » On va un peu se mettre à la place de ce petit garçon et s'intéresser à lui. Première chose qu'on constate, c'est que ce garçon, on n'a pas son nom. C'est un petit garçon, un jeune garçon, anonyme. On ne saura jamais comment il s'appelle. Peut-être Ryan, peut-être, je ne sais pas. Mais on n'a pas son nom. On ne sait pas de quelle famille il vient, de quel endroit de la Galilée. Le Saint-Esprit n'a pas trouvé bon de donner à Jean l'information sur qui est ce jeune garçon. Ce jeune garçon, pour moi, il représente tous les donateurs anonymes qui sont dans le monde et qui contribuent par leur générosité à faire avancer l'œuvre de Dieu. On n'aura jamais peut-être un tableau, un visage, un nom, mais partout dans le monde, partout où l'Évangile est lu, on entend encore parler de ce jeune garçon aujourd'hui. On en parle aujourd'hui à Saint-Quentin. Avec le peu qu'il a donné, il a contribué à ce que la gloire de Jésus puisse être manifestée. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous rester aussi. Certes, dans la Bible, nous sommes appelés à imiter de grands personnages, des modèles qui nous sont des noms très célèbres qui nous sont donnés. On pense à Abraham, à Moïse, à David, à Anne, à Marie, à beaucoup d'autres. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas faite que de fils d'or. Le tissu de l'œuvre de Dieu n'est pas fait que de gens connus, célèbres. Il y a des millions de fils tout à fait communs qui ont servi à tisser l'histoire de l'œuvre de Dieu tout au long du temps. Et peut-être tu n'es pas quelqu'un comme Moïse, David, Abraham. Ton nom ne sera peut-être pas connu. Mais nous pouvons tous contribuer quelque part à l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup d'anonymes dans la Bible qui ont servi juste à un moment précis de l'histoire et que Dieu a utilisé pour faire avancer son œuvre et magnifier son nom. Je pense à la petite servante, vous connaissez certainement, du général syrien Naaman. Hein, on ne sait pas son nom. Elle était faite prisonnière par ce général. Elle était israélite. Et elle était placée dans une maison où il y avait cet homme qui était malade de la lèpre. Et à un certain moment, elle a dit, « Mais si tu allais en Israël, il y a un prophète en Israël qui pourrait te guérir, Élisée. » Et elle a dit ça à sa maîtresse. La maîtresse l'a dit au général. Et le général s'est déplacé et a vécu cette guérison. On trouve ça dans 2 Rois 5. Jésus a parlé d'une pauvre veuve qui, dans le tronc du temple, a mis 2 petites pièces qui valaient 1 quart de sou. On ne connaît pas cette femme. On ne connaît pas sa vie. Elle était pauvre, elle était veuve. Mais c'était un exemple de générosité. Et Jésus l'a cité. Elle fait partie des héros de la foi. Il y a de petits gestes qui sont pour Jésus de grands gestes. De petits dons qui sont de grands dons. Et on peut être une grande personne sans être connu par la foule, par le monde, même par les autres chrétiens. Mais on est des personnes utiles, utiles pour le maître. C'est ce que Jésus attend. Qui était ce petit garçon? On ne le sait pas. Pourquoi il était là? On ne le sait pas non plus. Peut-être qu'il a appris que Jésus passait par son village et il s'est dit, c'est une bonne occasion de savoir qui est ce Jésus. Je vais venir, je vais y aller. Il a dit à sa mère, prépare-moi un sac de nourriture pour la journée. Je vais passer ma journée à suivre Jésus. Et on se met à sa place. Le voilà qui arrive sur place. Et quelqu'un lui dit, tu ne pourrais pas donner ton casse-croûte. Eh, c'est mon casse-croûte. Hein. Moi, j'ai été prévoyant. Débrouillez-vous. Hein. Fallait prendre, faire comme moi. Mais non, il a été prêt à abandonner ses provisions pour les donner à Jésus, pour que la foule entière puisse être nourrie. Je pense qu'il a été superbement ébahi et réjoui de voir ce miracle. Mais ce petit garçon, il nous apprend qu'il ne faut pas grand-chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Il suffit simplement qu'on soit prêt à participer, à donner, à apporter à Jésus ce qu'on a. C'est tout. Jésus n'attend pas plus. Il veut simplement qu'on mette à sa disposition les quelques biens qu'on a pour que l'œuvre puisse progresser. Question qu'on doit se poser, comment est-ce que je considère ce que j'ai, ce que je possède? Est-ce que mes biens sont mes biens ou est-ce qu'ils peuvent être disponibles pour Jésus quand il y a un besoin pour lequel il me sollicite? C'est important. Le petit garçon aurait pu s'agripper à ses provisions, à son sac, et dire « Non, je ne veux pas, c'est pour moi ». Et il n'y aurait pas eu de miracle. Jésus aurait peut-être fait différemment, mais il a ouvert sa main. Il a donné ses quelques pains, ses quelques poissons, et puis Jésus a pu nourrir la foule. C'est quelque chose de formidable. Le deuxième héros, bien sûr, c'est Jésus. En recevant les 5 pains d'orge et les 2 poissons, Jésus les prend, les multiplie et nourrit 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants, dit Matthieu, qui raconte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le miracle de la multiplication des pains, c'est le seul miracle qui est dans les 4 évangiles. Pour dire que c'est important. C'est vraiment un miracle qui a marqué les disciples. Il y a 2 multiplications des pains dans les évangiles. Et Jésus nous invite dans Matthieu 16, versets 9 et 10. Il est dit, Jésus dit à ses disciples, « Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées. » Jésus dit ça à un moment où les disciples se demandent ce qu'ils vont manger. Ils ont vécu incroyable, hein, mais ils se posent encore la question. Est-ce qu'il faut qu'on prenne des pains, voilà. Mais Jésus leur dit, mais vous vous rappelez plus de ce qui s'est passé. Et Jésus nous invite à réfléchir au nombre, aux chiffres, à ce qui s'est passé au moment des 2 multiplications. Alors on va le faire ce matin, j'ai mis un tableau ici, et on va se rappeler ce qui s'est passé pendant les 2 multiplications. Première multiplication, vous avez vu? Combien qu'il y a de pain ici?
5.
5 pains. Combien de personnes nourries?
5 000.
Sans les femmes et les enfants. Hein. Et combien de paniers qui restent?
12.
La deuxième multiplication. Vous savez, de tête?
4.
Combien de pains au départ?
4.
Vous ne savez peut-être pas. Hein. 7. Combien de foules nourries?
4 000.
Et combien de paniers qui restent?
7.
7. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Comment? Parle plus fort, j'ai pas entendu. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que moins Jésus a de ressources, plus il peut nourrir de gens. Vous rendez compte? Plus il a de ressources, moins il nourrit de gens. Et si Jésus n'avait rien, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire tout. Vous comprenez? Rien que par les calculs mathématiques des deux multiplications, eh bien Jésus montre qu'il est Dieu. Parce qu'à partir de rien, il est capable de tout faire. Et ça, c'est extraordinaire. Moins Jésus a de ressources, plus il peut multiplier et nourrir un grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien donner. Mais ça montre la puissance de Jésus. Et je vous rappelle ce que c'était, le but. Jésus voulait manifester qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Et la multiplication des pains, les deux multiplications des pains, sont là pour démontrer quelque chose de l'identité de Jésus et de sa puissance. Alors on a beaucoup à retenir de cette leçon, simplement résumée. Première question qu'on doit se poser, donc, que j'ai déjà dit, pour quelle raison est-ce que l'on suit Jésus ? Est-ce qu'on aime Jésus pour qui il est ? Ou est-ce qu'on le suit pour les bénédictions, simplement, que nous espérons recevoir de lui ? Ne courons pas après Jésus pour les miracles, mais attachons-nous à sa personne, parce qu'il est le miracle en lui-même. Il est le don magnifique de Dieu pour nous. Deuxièmement, comment est-ce que nous réagissons face à des situations, des défis qui nous dépassent ? Nous avons souvent le réflexe de regarder à nos possibilités, à être inquiets, à compter nos ressources. Mais ce que Jésus veut qu'on apprenne, c'est qu'on fasse entrer dans nos vies, dans le jeu de notre vie, sa présence, et que nous puissions nous appuyer sur lui, compter sur lui, plus que sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à être des collaborateurs de Jésus en mettant à sa disposition ce qu'il nous est possible de donner ? Il y a des besoins aussi dans l'Église, il y a des besoins dans le monde. Nous pouvons garder nos provisions comme le petit garçon ou dire « Seigneur, voilà, je t'apporte cela. Je ne peux pas beaucoup plus, mais je sais que tu peux multiplier, tu peux agir à travers cela. » Enfin, est-ce que nous sommes conscients que Jésus peut faire, comme dit Paul, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons? Jésus n'est jamais limité par une situation. Il peut toujours nous sortir par le haut de toutes les difficultés, les impasses, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il veut être présent dans notre vie, pas simplement dans nos cœurs et pour tout ce qui touche à la question de notre éternité, mais dans notre vie actuelle, pratique. Jésus veut être présent et montrer qu'il est là. Je vous laisse avec un dernier passage, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Paul dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez en plus en abondance pour toute œuvre bonne. » Dieu ne nous abandonnera pas, il pourvoira nos besoins, il peut nous donner bien au-delà de ce que nous pensons, mais son objectif aussi, c'est qu'on soit là pour donner en abondance pour toute œuvre bonne. Et c'est ce que ce petit garçon a fait, et c'est ce que nous sommes invités aussi à faire, aussi, dans nos vies. Voilà, je vais prier encore.